L'émission Prière inspirée vous est présentée par EMCI TV. Vivez des moments forts dans la parole et dans la prière avec Jérémy Sourdrille.
En l'an 60-64 environ, l'apôtre Paul est en prison et il fera écrire cette lettre aux Philippiens avec beaucoup d'émotion. Dans cette lettre, il va pleurer en pensant aux personnes qui sont ennemies de l'Évangile et qui font du mal à l'Évangile. Il y a aussi beaucoup de tendresse envers les destinataires de sa lettre. Et l'apôtre Paul va dire dans Philippiens au chapitre 2 et au verset 19 à 21, et c'est le verset 21 aujourd'hui, qui va nous intéresser particulièrement. Il dit « J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer Timothée, je vous rappelle, il est en prison, afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. » Il aimait particulièrement les personnes qui étaient là à Philippe. « Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. » Et il dira cette parole « Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. » La version Sommer dit « Car tous ne s'intéressent qu'à leurs propres affaires et non à la cause de Jésus-Christ. » Alors quand on lit cette parole, c'est waouh, une parole forte quand même, un peu radicale. Tous cherchent leurs propres intérêts. Alors il faut dire qu'à cette époque, il y avait beaucoup moins de population. On présume qu'il était à Rome lorsqu'il a fait écrire cette lettre ou lorsqu'il a écrit cette lettre. Peut-être à Éphèse, à Césarée, ce qui est moins sûr. Mais si c'est à Rome, on suppose qu'il y avait donc quelques milliers ou dizaines de milliers d'habitants. Et parmi ces habitants, il devait avoir peu de chrétiens. En tout cas, Paul n'a su trouver personne qui prenait à cœur la situation des quelques chrétiens de la ville de Philippe. Il dit bien « Je n'ai personne ici », donc à l'endroit où il se trouve. Il ne dit pas « Je n'ai personne sur la terre », mais « Je n'ai personne ici, dans la ville ». Dans l'endroit où je me trouve, qui partage mes sentiments. Donc dans la ville où il se trouvait, il a fait le triste constat que les chrétiens ne s'intéressaient qu'à leurs propres affaires. Je vous rappelle, il est en prison. Il ne pouvait pas compter sur les incroyants, parce que bien sûr, ce sont des incroyants. Et bien sûr, une toute petite proportion de la population était sauvée. Et dans ce petit pourcentage de la population qui était sauvée, eh bien, il n'a trouvé personne. Et je ne sais pas quelles étaient les conditions de la prison dans laquelle il se trouvait, la possibilité de pouvoir communiquer facilement aux autres croyants. En tout cas, il dit que tous cherchent leurs intérêts. Bon, c'est une parole qui est forte. Et donc, Paul parle de ceux qui l'entouraient là, à Rome, et qui, pour certains, s'étaient refroidis dans leur amour. Pour d'autres, avaient dévié, avaient été influencés par des faux docteurs, des faux enseignants. Et à ses yeux, eh bien, ces chrétiens ne se comportaient plus comme de véritables disciples du Seigneur Jésus-Christ et chacun ne s'intéressait qu'à ses propres affaires. Alors, c'est intéressant de voir que si aujourd'hui, on peut être très occupé, c'est facile d'être très occupé aujourd'hui, mais de réaliser que, eh bien, il y a 2000 ans, on a vu, il a écrit cette lettre dans les années 60-64, eh bien, les gens pouvaient être également très occupés. Alors qu'aujourd'hui, on a bien sûr tous les réseaux sociaux, toutes les capacités de communication, etc., toutes ces choses qui peuvent prendre notre temps, Netflix et autres, quand en réalité, on ne veut pas faire quelque chose, que ce soit aujourd'hui, dans l'année dans laquelle on est, que ce soit il y a 2000 ans, quand on ne veut pas faire quelque chose, on trouve toujours quelque chose à faire. Tel enfant dira qu'il n'a pas le temps de ranger sa chambre et on le retrouvera pendant une heure sur son téléphone ou à un jeu vidéo. Tel chrétien dira qu'il n'a pas le temps d'aller à la réunion de prière et le soir même ou le lendemain, il sera en train de regarder sa série préférée sur Netflix. En fait, on trouve souvent le temps qu'il faut pour faire ce qui nous plaît et on s'excuse de ne pas avoir le temps pour ce qui ne nous plaît pas. Même la plupart des personnes qui disent ne pas avoir le temps ont pourtant le temps de manger deux ou trois fois par jour. La question que je vous pose aujourd'hui, c'est « Que cherches-tu ? » C'est la question que le Seigneur nous pose aujourd'hui. « Que cherches-tu ? Tes intérêts ou ceux de Christ ?» On a tous, je crois, des intérêts qui nous sont propres. Il y a des choses qui comptent à nos yeux. On a tous des désirs et des rêves, même s'ils sont enfouis, même si on imagine qu'on n'a pas de rêve. Il y a quelque chose en nous, des désirs personnels. Et l'idée, ce n'est pas d'avoir aucun intérêt personnel, mais que nos intérêts soient les intérêts de Christ. Et pour ça, on devrait vivre pour Christ et choisir de tout lui remettre. C'est le thème de cette série, cette semaine, « Choisis de tout remettre à Dieu ». Alors, pour obtenir les intérêts de Christ, il faut choisir de tout lui remettre. Et il y a bien des choses dans nos vies qui n'ont pas leur place. En raison de notre appel, de la particularité de la vie de Christ qui est en nous, il y a bien des choses que Christ ne ferait pas à notre place. Et cette question, eh bien, que ferait Jésus à ma place ? C'est une bonne question qu'on peut se poser pour éviter d'être trop rempli de nos propres intérêts. On devrait donc foncièrement vouloir accomplir ce qui compte pour le Seigneur et ne pas rechercher ce qui nous plaît seulement. Le but de Dieu n'est pas, bien sûr, de nous enlever notre joie, notre bonheur, notre famille, les gens que nous aimons et même les loisirs que nous aimons. Mais le but de Dieu, au-delà de toutes ces choses et au-delà de toutes ces personnes, est que nous puissions vivre à 100% pour lui. Que nos cœurs ne soient pas partagés ou le moins possible. Quelques phrases plus tôt, Paul dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Il nous encourage dans sa lettre à voir les sentiments qui se trouvaient en Jésus-Christ. Et il dit ainsi, « Mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement quand je suis présent, mais alors que je suis absent. » Parce que quand il était présent, peut-être que les gens, vous savez, quand il y a quelqu'un, un homme de Dieu, quelqu'un que vous reconnaissez, qui arrive, quand le papa arrive à la maison, bien, les enfants se tiennent bien droits. Peut-être que quand les parents sont derrière la porte de la chambre, l'enfant, il est là en train de texter ses amis, il est sur Instagram ou je ne sais où, et le parent ouvre la porte ou il entend le parent qui arrive et il ferme, il cache son téléphone et il se met à travailler, vous voyez. Et c'est un peu parfois comme ça, certainement, que les Philippiens pouvaient être, ou peut-être les Corinthiens, ou régulièrement l'apôtre Paul, quand il était là, où il allait peu visiter forcément les églises parce que c'était à des distances assez longues. Mais en tout cas, peut-être que certains avaient un peu cette attitude-là. Quand l'apôtre Paul est là, eh bien, OK, je me tiens droit, je fais attention à la façon dont je parle, je prie d'une certaine façon même. Ça va jusque-là parce que, bien, il voulait que l'apôtre Paul, quelque part, les approuve. Et il leur dit, eh bien, même si je ne suis pas là, servez le Seigneur. Travaillez comme si j'étais là. Quand j'étais là, vous étiez en train de travailler pour Dieu. Même si je ne suis pas là, travaillez pour le Seigneur parce que vous n'aurez pas une récompense d'un homme, mais du Seigneur, et vous ne cherchez pas l'approbation des hommes, mais celle de Dieu. Et il dit, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et il leur dira, alors faites tout sans murmure ni hésitation. Alors on peut hésiter de servir Dieu, on peut être dans l'hésitation, on peut être même parfois dans la nonchalance, mais Dieu nous dit qu'à travers la bouche de l'apôtre Paul, son serviteur, il dit que Dieu peut mettre en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir, donc selon sa volonté, c'est-à-dire Dieu a quelque chose qu'il veut faire dans notre vie, et il peut mettre en nous le désir de vouloir accomplir cette chose, et même le faire, la capacité de faire cette chose. Alors voici une prière que personnellement je fais régulièrement. Seigneur, mets en moi le vouloir et le faire. On devrait voir la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. En réalité, il est généralement assez facile de pouvoir discerner où nous nous trouvons. S'imaginer que parce qu'on lit la Bible, qu'on prie, qu'on va à l'église, que tout cela fait de nous des personnes qui ont les intérêts de Dieu à cœur, pas forcément. On peut être pasteur d'une église et ne pas avoir les intérêts de Dieu à cœur. Et oui, aussi étonnant que cela paraisse. On peut donc avoir toutes sortes de choses dans notre vie, aller à l'église, etc., et en oubliant que finalement, nous sommes l'Église. Frères et sœurs, est-ce que Dieu peut compter sur vous? Dieu peut-il compter sur toi? Est-ce que Dieu pourrait faire le même constat que l'apôtre Paul, que son serviteur à notre égard, « Tu ne partages pas mes sentiments » pour prendre sincèrement à cœur la situation des personnes qui sont autour de toi? En effet, tu cherches tes propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Est-ce que Dieu pourrait nous dire une telle chose? Dans la lettre aux Philippiens, c'est vraiment une lettre qui encourage à la consécration. Une lettre qui encourage, et je vous rappelle, il dit, il exprime, il est là dans la prison, et même dans la prison, son cœur et tout son être entier est là pour servir Dieu. Il dira dans cette lettre qu'à cause de Christ, la gloire de Christ et la connaissance de Jésus-Christ, de l'excellence de cette connaissance, il a décidé de tout perdre pour lui. Et là, il est en prison, il a tout perdu. Il était dans une position sociale, religieuse, qui était excellente, mais quand il a découvert le Seigneur Jésus-Christ, alors qu'il était là sur le chemin, et qu'il a eu cette révélation de Christ, qui lui a dit, qui lui a montré toutes les choses qu'il allait souffrir pour lui, quand il a vu la glorieuse révélation de qui est Jésus, il a été prêt à tout abandonner pour lui, parce que Christ a trouvé son cœur, et il a trouvé le cœur de Christ, et il y a une connexion, il y a eu une telle révélation, il y a eu une telle communion dans le cœur de celui qui était seul. Et Dieu a changé son nom, Dieu a changé son cœur, et il voulait absolument vivre Christ, saisir Christ. Et il dit, mon but, c'est de le connaître, lui, ainsi que la puissance de sa résurrection, mais également la communion de ses souffrances. Et il n'avait de cœur, et il le partage bien aux Philippiens, et il les encourage à marcher dans l'unité, il les encourage à servir Dieu pleinement. Et ça me rappelle, lorsque je parle de cette communion, cette révélation de Jésus, lorsque Christ, bien que je l'ai connu par la grâce de Dieu à l'âge de 7 ans, je dis que mon adolescence ne reflétait pas celle d'un disciple, loin de là. Et bien pourtant, je priais, j'allais à l'église, je lisais la Bible tous les soirs. Je priais pour ma famille et je parlais de Jésus aux gens autour de moi, mais en réalité, mes intérêts n'étaient pas ceux du Seigneur. Et je me souviens très bien de ce 1er janvier 2003. Ça faisait à peu près un an, un peu moins, que je connaissais Annabelle, un an, un peu moins, que je connaissais Michael. Et en fait, j'ai rencontré Annabelle en janvier 2002. Et un an aussi, ou un peu moins, que je m'étais rapproché vraiment du Seigneur et que je m'étais sanctifié, que je m'étais consacré à lui, que j'avais décidé de dire oui à son appel. Mais le 1er janvier 2003, là, j'étais dans ma voiture. Plusieurs vous connaissez déjà, j'en parle régulièrement. Mais je me souviens, j'étais en train de conduire et j'ai dit, mais Seigneur, il y a mes plans, il y a mes projets. Je faisais des études à ce moment-là. Et j'ai dit, mais j'abandonne tout. Je veux te donner toute ma vie. Et j'étais sauvé. Et je lui ai dit, je veux te donner toute ma vie. Prends tout. Et là, j'ai senti un amour extraordinaire descendre dans ma voiture. Je me suis mis à pleurer, à pleurer, à pleurer. Et j'ai comme vu, entre guillemets, Dieu descendre. Et il a laissé quelque chose ou quelqu'un en moi, le Saint-Esprit. Et ça n'a plus jamais été pareil à partir de ce jour-là où je me suis consacré pleinement à Jésus, où j'ai abandonné, mes frères et sœurs, tous mes rêves et tous mes plans. Dans mon cœur, en tout cas, à ce moment-là, j'étais prêt à tout abandonner pour lui et à tout renoncer pour lui. Oh, quelle grâce de connaître Jésus-Christ. Pour lui, on doit être prêt à abandonner ce qui est le meilleur pour nous. Le meilleur pour nous. Il y a plus d'un an encore, je le partageais avec vous, il y a quelques mois, le Seigneur m'a, plus d'un an maintenant, il m'a amené à abandonner, à renoncer à quelque chose. Ce n'était pas un péché, c'était un appel même que le Seigneur avait pour moi, mais à un moment, c'était fini. Et il fallait passer à un autre cap, à une autre saison. Et ça demandait de renoncer. Ça a été dur, mais c'était ce que le Seigneur voulait pour moi. Vous savez, quand le Seigneur veut nous amener dans une autre saison, il y a un renoncement. quand l'arbre, pour pouvoir porter du fruit, porter les fruits de là, de l'été, la bonne saison, ou pour certains arbres de l'automne, eh bien avant, l'arbre est passé par l'hiver, par les difficultés, par des saisons, jusqu'à arriver à la saison, de pouvoir porter du fruit. Les arbres sont étirés, et sans même qu'on le voit entre guillemets, souffrent, leurs racines s'étendent. Ils passent par la chaleur du soleil, la froideur de la nuit, et ils s'étendent, mais ils s'enracinent profondément, et Dieu veut que nous puissions nous enraciner en lui. Alors quand le serviteur de Dieu dit qu'il ne trouve personne ici qui partage ses sentiments, cela fait écho aux paroles marquantes du Seigneur dans Ézéchiel chapitre 22, verset 30, qui dit « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve pas. » Dieu cherchait un intercesseur, mais il n'en trouvait pas. Et il faut dire que le service de l'intercesseur est parfois et souvent profondément ingrat. Non seulement tu choisis de prier pour des gens qui n'ont souvent rien à faire de toi ni de Dieu, mais en plus tu souffres intérieurement à cause de leurs péchés sans recevoir de leur part un quelconque merci. Dieu dit dans Ésaïe, « J'ai regardé, mais il n'y avait personne pour m'aider. J'étais consterné, mais il n'y avait personne pour me soutenir. Alors mon bras m'est venu en aide, m'a assuré le salut, ma fureur m'a servi de soutien. » Paul dit dans cette lettre aux Philippiens, il dit « Au point où nous sommes parvenus, avançons ensemble. Soyez mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin, c'est la perdition. Leur Dieu, c'est leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. » On doit se poser des questions, frères et sœurs. Parfois, est-ce qu'on ne s'est pas fait avoir par le cours de la vie, et on est en train de ne penser qu'à nous, nos maisons, notre argent, notre travail, notre salaire, nos business, nos entreprises, nos relations, nos. Est-ce que tout, finalement, n'est pas en train d'être porté sur nous? Et on doit tous, quel que soit notre âge, quelle que soit notre position dans la société ou dans l'Église, dans la famille, on doit tous régulièrement se remettre en question et voir est-ce qu'on est encore sur le chemin resserré qui mène à la vie, ou est-ce qu'on est en train de se tromper profondément et même de se tromper nous-mêmes. Il dit, pour nous, notre cité, elle est dans les cieux, et de là, nous attendons comme sauveur le Seigur Jésus-Christ. Est-ce qu'on est de ceux qui pensent aux choses de la terre? Est-ce que Dieu peut compter sur nous? Est-ce qu'on cherche finalement seulement nos intérêts? Je prie que nous n'ayons pas à rougir lorsqu'on va se présenter devant lui, à rougir parce que on n'avait que nos intérêts à cœur, on ne pensait qu'aux choses de la terre. Je prie que vraiment on puisse entendre de la bouche de celui que nous aimons sans l'avoir vu, bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. Merci Seigneur. Qui fait vibrer toi, lui, en cet instant.
Fais ce que tu veux.
Consacre-toi au Seigneur.
Pour ta gloire. Alléluia.
J'aimerais inviter plusieurs personnes là où vous êtes à pouvoir vous mettre à genoux dans sa présence. Pendant que Anne-Clémence va continuer de chanter, je voudrais vous encourager à dire au Seigneur, Seigneur, fais ce que tu veux. Et que ce soit un temps de renoncement, un temps où on se consacre à Dieu, où on s'offre à Dieu, un temps où tu lui donnes tout. Qu'on puisse entrer dans ce temps maintenant, entre dans ce temps de consécration et de renoncement à ta volonté, à tes projets, à tes désirs. Donne-lui profondément tout, tous tes projets. Merci. Mets-toi sur l'autel aujourd'hui.
Un cœur complètement dévoué.
Prends toute la place.
On fait ce que
oui,
tu veux.
Fais ce que tu veux de moi, Seigneur. Fais ce que tu veux de moi.
On fait ce que tu veux.
Fais ce que tu veux de ma vie.
De ma vie, je veux me donner.
Oui,
corps et âme.
Je me donne, je m'offre à toi.
Pour ce qui.
Sœur, offre-lui tout. Donne-lui tout. Donne-lui toute la place. Offre-toi. À l'époque, on offrait des animaux. Et ces animaux étaient là, offerts sur l'autel. Et Christ est venu, il a dit, « Je viens, ô Dieu, pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Et aujourd'hui, Christ est mort pour toi. Et alors qu'il est mort, lui, juste pour les injustes, tu peux maintenant t'offrir à lui, te donner à lui. Et dans ce temps de consécration, dis-lui, Père, je renonce à ma propre volonté. Je renonce à mes plans personnels. Je renonce à mes propres désirs. Je m'offre à toi, corps, âme et esprit. Voici mes membres. Que mes membres, qui sont les membres de Christ, puissent te glorifier. Que mes mains puissent te servir. Que mes pieds puissent aller là où ils doivent aller. Que mes pensées puissent te glorifier. Que tout mon être, mon corps entier, puisse être saint pour toi. Je suis le temple du Saint-Esprit. Père, et je m'offre à toi. Je me donne à toi. Je suis à toi. Je t'appartiens. Prends ma vie. Prends tout ce que je suis. Prends tout ce que j'ai, car je sais que tu as le meilleur pour moi. Je sais que tu es bon. Je m'offre à toi. Je te donne tout. Je te donne tout, Seigneur. Prends ma vie. Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut chanter ce chant pour terminer qui dit... Fais ce que tu veux, c'est toi qui es Dieu. C'est toi qui es le Seigneur et moi je suis ton serviteur. C'est toi qui es le Maître et moi je suis ton disciple. C'est toi qui es mon Père, Dieu, et je suis ton enfant. Je t'appartiens, je suis à toi. Je renonce à mes propres intérêts aujourd'hui. Et je te demande s'il te plaît, Père, si dans ma vie il y a quelque chose qui ne te plaît pas. Montre-moi. Je me consacre à toi. Dis-lui, Seigneur, s'il y a quelque chose qui n'a pas sa place dans ma vie, s'il y a une passion, s'il y a quelque chose que je fais, une activité qui prend trop de place, Seigneur, je l'abandonne. J'y renonce. Je te donne tout. Donne tes mains au Seigneur. Seigneur, voici mes mains. Je te donne mes mains. Voici mon corps, mon être tout entier. Que tout soit pour toi. Que tout soit pour toi. Mon temps, qu'il soit pour toi. L'argent que tu m'as confié, qu'il soit pour toi. Mes talents et mes dons, qu'ils soient pour toi. Ce que je suis, que tout soit pour toi. Merci Seigneur. Me voici, ô Dieu. Pour accomplir ta volonté. Amen.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de MCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Prières inspirées sur emcitv.com.